Votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour
à
tous. Très bonne année.
Europe 1, 6h.
Il va falloir anticiper, faire ses courses uniquement le week-end, éventuellement la journée, le samedi, un peu le dimanche peut-être. Il va falloir s'adapter.
S'adapter une nouvelle fois, nouvelle consigne. Dès ce soir, le couvre-feu est étendu dans 15 départements de l'Est de la France. Sorties interdites à partir de 18h. Nous serons à Reims dès le début de ce journal.
Un Français sur deux en consomme régulièrement. L'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécurité sociale. C'était l'un des changements de l'année 2021.
Avec la crise, les deux confinements, le marché de l'automobile s'est effondré. Mais regardons le verre à moitié plein. La bonne nouvelle, c'est que les véhicules hybrides et électriques progressent de façon spectaculaire.
Et puis top départ du mercato de football aujourd'hui. Les finances des clubs sont dans le rouge. Certains joueurs pourraient être bradés.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est donc un quotidien qu'il va falloir changer à nouveau dans 15 départements. Le couvre-feu sera étendu à partir de ce soir.
15 départements qui se trouvent dans l'est du pays, dans les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et dans la région Sud. Dans toutes ces zones, le couvre-feu s'appliquera à partir de 18h aujourd'hui et non pas 20h comme dans le reste du pays.
2 heures de moins à l'extérieur, il faut s'adapter à nouveau. Réécoutez ce reportage à Reims de notre envoyée spéciale Caroline Baudry.
20h c'était bien, 18h c'est trop tôt.
En marchant dans les rues pavées du centre-ville, Pascal est préoccupé. Lundi, cet artisan indépendant retourne chez ses clients. Mais d'ici là, il faut revoir tout l'agenda.
Quand on m'appelle, il va falloir que je dise oui, mais bon, je ne peux pas venir à cette heure-là parce que pour vous, vous ne pouvez plus sortir ou refaire les attestations. Il faut vraiment s'organiser. On ne sait pas combien de temps ça va durer, c'est surtout ça. Quoi.
2 heures de moins pour terminer sa journée. Une équation à résoudre en famille pour Laurence, une salariée.
J'attends de savoir quelles consignes on va avoir par notre direction. Après moi, j'ai des enfants, elles ont 13 et 14 ans, donc je vais voir, mais j'imagine que le collège va les faire quitter à 17h pour qu'elles puissent être rentrées à 18h.
Plus d'activités extrascolaires pour les enfants, plus de sport après le travail pour les parents et un frigo à remplir en anticipant, raconte David, un père de famille.
Quand on est en télétravail, on ne peut pas finalement sortir. Il va falloir anticiper, faire ses courses uniquement le week-end, et il va falloir s'adapter.
Un nouveau rythme adopté en attendant peut-être de nouvelles annonces la semaine prochaine en fonction du bilan épidémique dans ces départements.
Caroline Baudry à Reims pour Europe 1. 15 départements sont donc concernés par cette extension du couvre-feu, mesure adaptée aux territoires dans lesquels le virus circule plus activement qu'ailleurs. Et cette différenciation, c'est une stratégie assumée par le gouvernement, Jean-Rémy Baudot.
Oui, et voilà comment un conseiller ministériel décrypte la stratégie en place. On s'adapte de manière pragmatique là où la situation est la plus préoccupante. Pour l'heure donc, 15 départements. Un retour à la méthode mise en place cet été en Mayenne et plus tard à Marseille. Seule différence notable, cette fois les élus locaux réclament ces mesures, notamment dans le Grand Est. Cette carte, elle sera révisée d'ici une semaine. Le gouvernement garde un œil sur les courbes de l'épidémie, mais anticipe un mois de janvier difficile. C'est la raison pour laquelle il démine déjà les prochains sujets délicats. Les lieux de culture ne rouvriront pas le 7 janvier prochain. Pas possible, a annoncé hier le porte-parole du gouvernement. Même chose pour les stations de ski. Je vois mal les choses, a confié cette semaine en Savoie le secrétaire d'État à la ruralité. Comme une illustration de ce qu'Emmanuel Macron expliquait lors de ses vœux, 2021 s'ouvre comme s'est terminé 2020, disait-il, sur des efforts et des restrictions.
Merci Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. Un mot des chiffres de l'épidémie, plus de 19 000 nouveaux cas dans les dernières 24 heures. La bonne nouvelle vient du nombre de patients admis quotidiennement en réanimation. Ce chiffre continue de baisser.
S'agissant de la vaccination, l'exécutif a visiblement entendu les critiques face à la lenteur des premiers jours. Emmanuel Macron demande une accélération de la campagne depuis dimanche. À peine plus de 300 personnes ont été vaccinées.
Et dans ce contexte de couvre-feu et de restrictions sanitaires, voilà le genre de rassemblement qui inquiète, qui a même provoqué une réunion de crise hier soir, place Beauvau, à Lieuron, au sud de Rennes. 2500 personnes sont réunies depuis jeudi soir pour un réveillon sauvage. Une rave party dans des hangars désaffectés, sans aucun geste barrière. Les forces de l'ordre sont sur place, mais n'évacuent pas pour l'instant les fêtards.
Ouais, et Charles Guyard est sur place également, nous le rejoindrons dans le journal de 6h30. C'est l'un des changements pour cette année 2021, Marguerite, la fin d'une exception française. L'homéopathie ne sera plus remboursée.
Ouais, ces granules sont très populaires. Un Français sur deux en consomme de façon régulière, mais leur efficacité est aujourd'hui remise en cause. Virginie Riva, la Sécurité sociale, va cesser le remboursement.
Oui, l'homéopathie sera désormais totalement à votre charge. C'est l'application de la mesure phare portée par l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le taux de remboursement avait déjà été abaissé de 30% à 15% début 2020. Mais là, c'est terminé. Alors, l'homéopathie continuera d'être vendue, bien sûr, en pharmacie pour ceux qui peuvent et veulent en acheter. avec ou sans ordonnance. Elle conservera même son statut de médicament. Mais c'est une petite révolution, alors que la Sécurité sociale prenait en charge l'homéopathie depuis sa création, sans avoir à convaincre la Haute Autorité de Santé de son efficacité, contrairement aux autres médicaments. C'était aussi une quasi-exception française. Les Français ont d'ailleurs continué à acheter, entre mars 2018 et février 2019, plus de 165 millions de boîtes d'homéopathie. La mesure va donc permettre d'économiser à la Sécurité sociale plus de 126 millions. C'est ce qu'elle avait dû débourser en 2018. Reste une question, pas encore tranchée à ce stade. Les mutuelles vont-elles continuer à rembourser ces produits alors qu'elles n'y sont plus tenues?
Précision de Virginie Riva et nous en parlerons tout à l'heure avec l'économiste de la santé Frédéric Bizard, invité à 7h40. Le bilan était redouté par tout un secteur. Le marché de l'automobile s'est effondré l'an dernier.
Les immatriculations ont chuté de 25%. Une dégringolade qui fait revenir le marché plus de 40 ans en arrière. On retrouve les chiffres de 1975. Mais la bonne nouvelle dans ce climat, eh bien, c'est la popularité des véhicules hybrides et électriques. Ils représentent aujourd'hui une vente de voitures neuves sur 5. Aurélien Fleureau, c'est une progression spectaculaire.
Oui, puisque les véhicules 100% électriques hybrides et hybrides rechargeables ne constituaient qu'à peine 7% du marché en 2019, et c'est désormais plus de 21%. Alors une progression était attendue, les constructeurs n'avaient pas d'autre choix que d'électrifier leur gamme avec des objectifs CO2 fixés par Bruxelles très contraignants, mais une augmentation si forte, eh bien cela a surpris François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobile, notamment avec les périodes de fermeture des concessions.
Ce qui est assez impressionnant, c'est de voir que un des points critiques cette année, c'était le fait que nos concessions automobiles étaient fermées et on ne pouvait pas faire essayer les véhicules. Or, la plupart des acheteurs sont de nouveaux acquérants, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas ce type de voiture, donc ils ont besoin d'essayer la voiture. Et là, on voit que le travail qui a été fait a été énorme et on a eu des ventes qui ont été concrétisées. Là, le chiffre est vraiment très bon.
Deux autres bons chiffres, le niveau de CO2 émis par les voitures neuves en France n'a jamais été aussi bas, avec 91 grammes par kilomètre en moyenne. Et puis, certainement moins bon pour l'environnement, mais symptomatique d'une année de crise économique, le marché de l'occasion a été très soutenu avec une baisse de seulement 4% et un engouement marqué pour les voitures de plus de 10 ans.
Les précisions d'Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1.
Et à suivre, tout roule bien sûr, votre chronique auto à 6h40 avec notamment le coupé série 4 BMW. BMW qui fait partie des constructeurs assez efficients justement en matière de pollution. Il est 6h08, le porte-parole du gouvernement l'a annoncé hier midi. Les lieux culturels ne pourront pas rouvrir le 7 janvier prochain, mais Europe 1, bien sûr, ne vous oublie pas.
Et oui, tous les jours, depuis 2 semaines, les spécialistes de notre rédaction vous donnent leurs conseils culturels pour continuer à vous adonner à vos passions. Ce matin, on parle de jeux vidéo. Alors là, pas de problème de gestes barrières. Clément Le Saffre, vous avez recensé pour nous les meilleurs jeux de l'année 2020.
Oui, et cette année, il ne fallait pas rater Ori and the Will of the Wisps. Une petite merveille, hein. C'est un jeu de plateforme dans lequel on contrôle une sorte de petit renard chargé d'apporter la lumière dans une forêt ensorcelée. Un univers splendide qu'on croirait sorti d'un conte de fées avec des créatures étranges et une musique envoûtante. Et dans un tout autre style, je vous recommande aussi Alt Frequencies, un jeu français très original sorti sur la Switch. Dans un monde alternatif, un pays s'apprête à mettre en place une boucle temporelle, une technologie qui, pour sauver la planète, réinitialise l'action de l'homme régulièrement. Mais voilà, ça cache quelque chose, il faut donc mener l'enquête, mais uniquement à travers des stations de radio.
À la fin de la semaine, la question de la boucle temporelle sera votée. Il y aura un bureau de vote sur le campus.
Ne pensez-vous pas que le public est en droit de le savoir avant le vote?
Il est trop tôt pour tirer des conclusions.
C'est un message subliminal, il le dissimule, mais il est partout.
Alt Frequencies, c'est très bien fait, c'est prenant et c'est aussi un bon moyen d'aborder le thème des fake news plus que jamais dans l'air du temps.
Bon Clément, d'accord, mais si on devait en retenir qu'un seul?
Ah, c'est pas facile, hein. Il y a eu tellement de bons jeux cette année, je vais garder moi Spiritfarer, un jeu qui m'a transporté. Là encore, le concept est étonnant, on incarne Stella, une passeuse d'âme chargée d'accompagner les esprits des morts vers l'au-delà. Sauf que ce voyage prend la forme d'une croisière. Il faut en effet accueillir chaque esprit à bord d'un bateau, lui construire une cabine et répondre à tous ses besoins. En plus d'être visuellement très beau, Spiritfarer est un jeu chargé d'émotions, une réflexion lumineuse sur la mort, autant qu'une belle invitation au voyage. Et c'est mon coup de cœur de 2020.
Et voilà pour ces conseils jeux vidéo signés Clément Le Saffre.
La période est cruciale pour les clubs de foot aussi, Marguerite. Le mercato hivernal s'ouvre aujourd'hui.
Dans un contexte bien particulier, la pandémie, les huis clos, le fiasco Mediapro autour des droits télé. Bref, les clubs français ont perdu beaucoup d'argent en 2020 et vont devoir se serrer la ceinture, Cyril de la Morinerie.
La crise du coronavirus ne leur laisse pas le choix. Avec des pertes évaluées à 800 millions d'euros, les clubs de Ligue 1 ont un besoin urgent de vendre des joueurs afin de renflouer les caisses. Sauf que les clubs d'habitude acheteurs ont eux aussi été impactés par la crise sanitaire. Certains joueurs pourraient donc être bradés, s'inquiète le président de Dijon, Olivier Delcourt.
Pour vendre, il faut qu'il y ait des acheteurs, et ces acheteurs aient les moyens. En Europe, c'est compliqué aussi, je pense, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et quand on est obligé de vendre, on sait très bien qu'on ne vend pas toujours au meilleur prix.
Une situation qui n'est pas propice aux investissements. Pour espérer se renforcer, les dirigeants du foot français veulent se montrer créatifs en ayant notamment recours à des prêts. Mais l'agent de joueurs, Christophe Hutot, est très dubitatif.
Quand ils disent « il faudra être créatif », je ris, je souris et je leur dis « mais créatif de quoi ? Créatif comment ?» La seule possibilité que vous allez avoir devant vous, c'est vendre. Ou tout simplement, si vous ne pouvez pas vendre, prêter des joueurs dans d'autres championnats qui pourront prendre en charge la totalité du salaire.
Et pour couronner le tout, les clubs anglais, d'habitude friands de nos jeunes talents, vont être freinés par le Brexit qui limite désormais leur marge de manœuvre.
Cyril de la Morinerie. Et puis dans le Vendée Globe, c'est un moment important que l'on va vivre ce week-end. Les premiers skippers devraient franchir le dernier cap de la course, le mythique Cap Horn, c'est la pointe de l'Amérique du Sud, la porte de l'océan Atlantique et la remontée vers les sables d'Olonne. Pour les marins, c'est un peu le début de la fin. Et ils ont hâte. Écoutez Charlie Dalin qui est pour l'instant deuxième.
Oui, j'ai hâte de le franchir. J'espère que je l'apercevrai, même s'il y a des chances que je passe de nuit. On verra. Si je le vois, tant mieux. Si je le vois pas, tant pis. Mais oui, c'est le symbole de la fin des mers du Sud. Voilà, ça fait 35 jours, je crois, que je suis dans les 40e. Voilà, j'ai hâte de retrouver les températures un peu plus élevées, faut réussir à faire baisser le taux d'humidité dans le bateau, d'en finir avec, avec les grosses mers, avec les grosses houles et ouais. J'ai hâte de le franchir.
Charlie Dalin, dont vous pouvez retrouver, on vous le rappelle, le carnet de bord sur europe1.fr. Charlie Dalin qui est deuxième du Vendée Globe, juste derrière Yannick Bestaven qui mène la course.
C'est quand même royal hein, d'avoir un lien direct avec Charlie Dalin et son cockpit.
Qui est deuxième.
C'est quand même génial. Ouais. Merci beaucoup Marguerite, à tout à l'heure pour le journal de 7h.